Tout de suite, on va découvrir, tiens, un concept vraiment étonnant. On va faire le point sur la voiture à air comprimé.
Alors, une voiture vraiment propre, hein, pour le coup, puisqu'elle ne rejette que de l'air.
Ça, c'est fabuleux, c'est, attendez. Voilà.
Alors, on va faire tout de suite toutes les blagues à la noix, genre, c'est gonflé, vous ne manquez pas d'air, comme ça. Ça, c'est fait, vous voyez.
J'espère que notre invité n'a pas la pression.
Non. Non plus. Voilà. Alors, on a avec nous Guy Nègre, qui, justement, est l'inventeur de cette voiture à air comprimé. Alors, une voiture à air comprimé, d'abord.
Bon, d'abord, bonjour. Parce que, bonjour. D'abord, parce que Jean-Luc Bourgoin n'est pas très poli comme garçon. Il ne dit pas bonjour aux gens. Hein.
Bonjour.
À part
bonjour.
Ça, il est sympa.
Bon, alors, voiture à air comprimé, bon, comment ça marche, comme aurait dit un célèbre chroniqueur de télé.
C'est très, très simple, en fait. On comprime de l'air dans une bouteille. Bon, ça, il faut de l'énergie pour le faire. Et puis après, on va détendre cet air dans un dispositif de détente avec travail. En fait, un moteur à air comprimé, c'est un dispositif de détente avec travail. Le tout, c'était de faire un dispositif de détente avec travail de très bon rendement.
D'accord. Et vous travaillez depuis combien d'années depuis sur ce concept ?
Sur l'air, c'est depuis 1996. On a commencé l'air en 1996. Bon, là, il y a eu toute une généalogie de moteurs. On a fait plusieurs dispositifs. Enfin, bon, voilà, ça fait peu plus de 10 ans.
Qu'on comprenne bien. Bon, quelle voiture peut être compatible avec ce système ?
En principe, toutes. Mais il y a un problème de volume. Donc, il vaut mieux faire une voiture autour d'un réservoir. En fait, ça a été un peu. Enfin, si vous voulez, c'est un peu comme la voiture électrique. La voiture électrique, il faut des batteries, il faut beaucoup de batteries. Et c'est très lourd. Donc si on prend une voiture classique et on l'électrifie, ben on obtient ce qu'on a eu à l'époque, des voitures électriques, des voitures un peu lourdes qui étaient pas, il y avait plus de coffre à bagages, enfin bon, etc. Donc il fallait faire une voiture autour. On s'est très très vite rendu compte quand on a fait le moteur. Au début on a fait un moteur, on a fait tourner un moteur. Puis après on s'est très très vite rendu compte qu'il fallait faire une voiture autour du système parce qu'il fallait des réserves d'air. Bon après il y a eu toute une évolution puisqu'on est passé à la bi-énergie. Alors là il faut moins de réserves d'air puisque à partir du moment où on a deux énergies, un adjuvant énergétique, on n'a plus besoin d'avoir autant d'autonomie, etc.
C'est-à-dire vous avez un petit moteur thermique qui regonfle
Non, pas du tout. Nous sommes en bi-énergie, nous ne sommes pas en motorisation hybride.
D'accord.
Motorisation hybride, c'est deux moteurs,
un moteur essence
et un moteur électrique. Nous, c'est le même moteur, c'est le même système de détente avec travail. Simplement, on va travailler dans une chambre de combustion externe à faire un apport énergétique.
D'accord, donc vous allez injecter un carburant.
Voilà. Oui, ça peut être n'importe quel carburant, ça peut être un éthanol, ça peut être.
D'accord.
Ça peut être du bois, ça pourrait être n'importe quoi.
Avec
il faut chauffer de l'air.
D'accord, il faut chauffer de l'air.
Il faut chauffer de l'air.
Alors, on va se concentrer quand même sur l'air comprimé. L'autonomie. Vous disiez tout à l'heure la réserve d'air, ça prend beaucoup de place de l'air comprimé comme
c'est,
ça.
C'est volumineux. Bon, disons si on veut faire une autonomie, bon, c'est fait pour rouler en ville en air comprimé parce qu'il y a pas beaucoup d'énergie. 100 litres d'air comprimé à 300 bars, c'est à peu près 17 mégajoules. Bon, c'est pas beaucoup. Disons notre voiture, la base de notre voiture qui était 300 litres 300 bars, on disposait de 14,5 chevaleurs tout rendement déduit. Donc 14,5 chevaleurs, ça veut dire qu'on peut rouler 10 heures avec 1,4 cheval. Et ça veut dire qu'on peut rouler 1 heure avec 14,5 chevaleurs. Donc c'est pas beaucoup.
Tout dépend de ce qu'on demande à la voiture. Donc,
bien sûr.
Oui. Si vous voulez faire de l'autoroute, c'est pas fait pour, j'imagine. Ouais, vous épuisez l'air rapidement.
On est loin de votre Aston Martin, là, 14 chevaux, non ?
Oui, mais on est beaucoup moins lourd aussi.
Ah, oui. C'est ce qu'il y a au ralenti sur l'Aston Martin.
C'est ralenti, ouais. Mais non, mais alors concrètement, il y a des protos qui tournent.
Il y a des protos qui tournent, bien sûr.
Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Vous faites le plein, qu'est-ce que vous faites ?
Ben, alors concrètement, les dernières évolutions du système, c'est une voiture qui est une voiture bi-énergie, bon, sauf pour des flottes, éventuellement une mono-énergière. Donc on peut faire le plein, il y a deux manières de faire le plein. On peut faire le plein soit dans une station-service spécialisée, transfert de volume, ça c'est un plein qui se fait en 3 minutes. Ensuite, on peut faire le plein en branchant la voiture sur une prise, parce que le moteur c'est un motocompresseur, moto-alternateur, donc ça marche à peu près c'est réversible.
C'est un super gonfleur, quoi, en gros, c'est ça ?
Un super gonfleur, oui, on peut l'appeler comme ça.
Voilà.
Et là, vous allez rouler, alors avec une voiture bi-énergie, on va se caler sur environ 60 km en ville au point de vue autonomie. Et puis, lorsque vous passez au-dessus de 50 km/h, à ce moment-là, on va commencer à chauffer l'air avec un apport énergétique externe. Et à ce moment-là, bon, vous avez une voiture normale qui peut rouler jusqu'à 150 km/h. Mais je crois qu'on ne dépassera pas. Nos voitures ne dépasseront pas 150
km/h. De toute façon, ça n'a aucun intérêt aujourd'hui.
Ça n'a plus aucun intérêt, voilà.
Guy Nègre, Jean-Luc Moron, on revient dans un instant, on continue notre sujet parce que c'est passionnant.
J'ai plein de questions, j'ai plein de questions.
Nous aussi, d'ailleurs, tiens, si ça vous intéresse ce sujet, 3216, hein, appelez-nous. On revient dans une minute.
RMC Weekend, votre automobile, François Sorel, Jean-Luc Moron.
Le retour de votre auto sur RMC 8h21, Jean-Luc Moreau et notre invité Guinègre, c'est vous qui avez inventé cette voiture à air comprimé, on en parle ce matin.
Oui, puis on en parlait pendant la pub et c'est vrai qu'on a évoqué plein de choses. François va pouvoir en parler toute l'heure. Alors Guinègre nous disait à l'instant, je lui posais la question, combien coûte à peu près une recharge pour faire 100 km
Alors, suivant les méthodes, c'est-à-dire si on prend, selon l'énergie primaire qu'on utilise, ça va coûter entre 0,5 et 2 euros les 100 km en ville. À peu près dans ces valeurs-là. Et sur la route en bi-énergie, ce sont des voitures très économes en carburant. Si on utilise un fuel, ça va nous coûter 2,5 euros à peu près les 100 km.
Bon, alors, qu'est-ce qui sort alors ? Il y a un pot d'échappement là, dans ce truc-là ou pas ?
Alors, c'est un pot d'échappement en nappe. C'est assez particulier d'ailleurs, parce que comme on a un air qui est plus dense, quand on est en air comprimé, on a un air plus dense que celui des voitures. Donc, on n'a pas un tuyau, c'est une nappe, c'est une espèce de filtre qu'il y a sous la voiture. Tiens. Et il sort de l'air. Quand on est en air comprimé, il sort de l'air pur.
D'accord, enfin, de l'air pur, zéro pollution.
Zéro pollution. En air comprimé,
incroyable.
En utilisation zéro pollution, bien sûr, pour comprimer l'air, on va utiliser une énergie,
oui, qui
elle peut
va
être
polluer.
Légèrement polluante.
Voilà, mais en tout cas...
Non, si on fait avec un fleuve, si on fait des microturbines dans un fleuve,
oui.
On est zéro pollution
du début à la fin.
Ça fait du début à la fin.
Alors moi j'ai une question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, déjà vous nous avez dit, je travaille depuis 1996 sur ce projet, pourquoi est-ce que les grands constructeurs français ne se sont pas intéressés à ça ? Parce que vous avez vendu le brevet, mais à une société indienne.
Oui, on n'a pas vendu le brevet, on a cédé la technologie, on a concédé une licence exclusive pour l'Inde à un constructeur qui est assez connu, qui s'appelle Tata.
D'accord.
Et donc, je pense que c'est le deuxième constructeur indien, sinon le premier aujourd'hui, puisqu'il est à maintenant pas loin d'un million de voitures par an. Mmh.
Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça ? Ils vont créer des autos ?
Ils vont faire des
avec
autos.
Avec ce système ?
Alors, voilà. Monsieur Ratan Tata a lancé l'idée de voiture very low cost. Il y avait les low cost, il a voulu faire avec une voiture extrêmement économique, qu'il a appelée la One Lakh Car. One lakh en Inde, c'est 100 000 roupies. Et 100 000 roupies, c'est pas 2 000 euros. C'est en dessous de la voiture chinoise dont vous parliez tout à l'heure.
Donc elle va coûter moins de 2 000 euros alors.
Oui, c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire.
Il veut cette technologie dans cette voiture.
Il souhaite avoir cette technologie dans cette voiture. C'est pour ça qu'il l'a acquise. Mais on a énormément travaillé, discuté, négocié pour cette chose-là. Et la voiture va être équipée en Inde de notre technologie. Ça, nous en sommes persuadés.
Alors pourquoi l'Inde et pas la France ?
Parce qu'on dit un indien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est
merci Jean-Luc. Merci beaucoup.
Excellent.
Il ne faut pas exagérer. Hein.
Non, mais un bon tien.
Alors là, pour la France, c'est pour quand ?
Ben, la France, la France d'abord, bon, la France c'est un pays et dans des pays il y a des hommes. Et les hommes ont leurs idées. Et leurs idées, ils suivent leurs idées. Donc c'était pas dans l'idée, c'était pas dans l'air du temps. Bon, toutes les technologies ont subi des modes. On a parlé à une époque, on avait fait le turbo, après on a fait les 4 soupapes, etc. Après on a fait les FAP. Donc c'était pas la mode en France. Et il est très difficile d'imposer une technologie, de faire une rupture technologique et d'arriver chez un constructeur, lui dire ah, écoutez, attendez, vous avez 6000 mecs, votre truc c'est pas terrible ce que vous faites. Moi tout seul, petit imbécile, je pense que j'ai mieux. Et ça, ils aiment pas trop, donc c'est difficile de rentrer et de les pénétrer. Donc ça s'est mal passé. Au départ, bon, ils ont assez critiqué le système en disant « ouais, mais ça ne marchera jamais », etc., etc. Donc il y a eu un petit peu toute une polémique.
Mais ça évolue aujourd'hui ou pas ?
Oui, là maintenant, très nettement. Ça a complètement changé.
Vous en êtes où aujourd'hui ?
Ça a complètement changé. Ah, ben, nous, on a cédé, donc, on travaille en collaboration avec Tata. On prépare l'industrialisation. Et nous, on va industrialiser nos propres voitures dans le reste du monde, à part l'Inde. Puisque Tata va rester dans l'Inde. Le contrat que nous avons signé lui interdit d'exporter.
D'accord.
Mais enfin, c'est un marché énorme.
Alors concrètement,
vous avez l'ambition de créer donc cette voiture et de la commercialiser, par exemple, ici en France.
Oui. Alors c'est pas celle de Tata.
C'est notre voiture.
Voilà,
avec
on va sortir une petite gamme dans un concept industriel qui est très très spécial, qui consiste à fabriquer la voiture chez le concessionnaire. Mais c'est un truc extraordinaire. C'est une rupture industrielle fabuleuse parce que ça fait des économies de logistique extraordinaires. Ça fait bon. Enfin, c'est vraiment un concept très 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 puissant et très fort. Petite usine, 4300 m², proche du marché, la voiture, une voiture chaque 30 minutes en fabrication série.
Et quand, à quel coût ?
Alors, il y a plusieurs. On a trois modèles. On a fait un modèle. Ratan Tata avait fait la One Lakh. On a dit on va faire la One Cats. Cats pour Compressed Air Technology. système. Bon, on va devoir abandonner le nom parce que M. Caterpillar, il n'est pas content. Il nous a dit qu'il ne faut pas utiliser.
Ah oui, 4, c'est vrai que c'est
plutôt lui. Ah oui, 4. Bon, on a essayé de lui dire c'est propre, c'est une image de propre et tout. Il n'a pas l'air de vouloir. Non, non, il nous a demandé très gentiment de l'enlever. Je crois qu'on ne va pas attendre qu'il le demande méchamment, on va le faire. Bon, donc si vous voulez, on va commencer à produire 3 voitures. La première qui sortira, ce sera pour nous la OneCat. Enfin, donc une voiture extrêmement économique. C'est une voiture qui va peser 350 kilos. Et c'est une voiture que nous voulons commercialiser à 3500 euros. Et nous pourrons le faire.
Alors, à votre avis,
fin 2008, début 2009. On est sur la base fin 2008, les premières pré-séries. Bon, jusqu'à maintenant, on a eu des.
Mais vous avez des partenaires financiers pour faire ça? Parce que j'imagine.
Ah ben non, on a Tata. D'accord. Si vous voulez, c'est pas notre partenaire financier, mais nous avons maintenant les moyens de le faire.
D'accord.
Alors que les années précédentes, on voulait y arriver, on n'y arrivait pas, on n'avait plus les moyens, c'était des périodes de catastrophe.
Moi, j'ai une question quand même, c'est qu'on a vu cette semaine le bonus malus, et en dessous de 60 grammes de CO2, il y a un super bonus pour les voitures pas du tout polluantes. La vôtre n'est pas du tout polluante. De 5000 euros, vous nous dites 3500 euros de prix de base. Ça veut dire que la voiture va être gratuite et que le concessionnaire va vous rendre de l'argent en plus?
Oui, c'est assez amusant. Bon, j'ai appris ça comme tout le monde cette semaine. Je trouvais ça très très drôle.
Là, il va y avoir une vraie question à poser au gouvernement. Comment on fait?
Oui.
C'est gratuit donc.
C'est un petit effet pervers.
Je prends la première. je prends la première.
Ah ouais, mais vous pouvez faire un tour.
Je crois qu'on pourra pas. Si on reste sur ces bases-là, je pense qu'il nous sera impossible de fournir la demande.
Ça, c'est clair.
Merci Guinègre. En tout cas, et puis bonne chance, hein, parce que c'est vrai que une bonne invention française. Il nous tarde de voir un petit peu ce que ça donne.
Ah hein, oui, comme quoi en France, il y a des bonnes idées, mais parfois elles mettent longtemps à émerger. Il y a quelques réticences, on dira.
Alors, la météo, les infos sur RMC, puis on repartira.
Je vous pose ma question maintenant.
Oui, allez-y.
Voilà, ma question est la suivante. Depuis de nombreuses années, les gouvernements annoncent la réduction de l'écart de prix entre l'essence et le gazole. Il y a une réduction modérée, me semble-t-il, mais il reste un écart encore substantiel, de l'ordre de 15 à 20 euros. Alors, avez-vous connaissance de ce qui est annoncé maintenant? C'est utile pour le choix d'une voiture, choisir entre voiture essence ou voiture diesel?
Alors, effectivement, il y a, on va dire, un léger rééquilibrage des prix entre le gazole et le Super 95.
Alors,
si vous prenez les tarifs.
15 ou 20 euros,
ouais,
c'est 15 centimes.
20, oui, heureusement.
Hein,
ouais.
15 ou 20 centimes d'euros.
15 ou 20 euros, là, vous projetez dans 15 ans.
Pour 100 litres.
Oui, pardon?
Pour 100 litres.
Ah oui, d'accord.
On va parler
en prix au litre.
Tout le monde n'a pas une Aston Martin pour faire le plein. Alors, le gazole.
Attendez, avec votre Aston Martin, vous n'allez pas faire plaisir à Pierre. Hein. C'est pas fait en France. Hein, votre
non, c'est pas fait en France, c'est vrai.
Faites attention.
Bon. Alors, de janvier à novembre 2007, le prix du gazole est passé en moyenne de 1,17 euros à 1,23 euros, c'est-à-dire plus 6 centimes. Et le SP95 de 1,32 à 1,34, seulement 2 centimes. Donc, c'est vrai que le différentiel entre les deux s'est réduit. Mais ça ne vient pas de l'État, même si l'État avait dit on va réduire le différentiel entre le gasoil et le SP95, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a 60,69 euros de taxes. Alors là, on va prendre évidemment sur 100 litres, puisque c'est sur 100 litres qu'on compte. Pour le SP95, pour le gasoil, c'est 42,84 euros précisément. Vous voyez, hein, une sacrée différence de taxation entre les deux, en fait. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le différentiel entre le gasoil et le super se réduit? C'est pas les taxes. Les taxes n'ont pas bougé. Elles ont même diminué proportionnellement par rapport au prix du carburant. Pour le gasoil, aujourd'hui, on va parler en pourcentage. On est à 55% de taxes. On est à 64% de taxes sur le SP95. Si on remonte en 2002, on était à 66% pour le gasoil et 73,6% pour le SP95. Donc, vous voyez, les taxes n'ont pas bougé. Ce n'est pas le gouvernement qui est responsable de l'écart entre le gasoil et le SP95. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un écart? En France, on consomme 75% de gasoil. Le gasoil, c'est plus cher à fabriquer hors taxe que l'essence. Et puis surtout, on a un gros déficit de fabrication, donc il faut importer le gasoil. On a la chance en France d'avoir la production d'essence et de gasoil la moins chère d'Europe hors taxe. Ça veut dire qu'à partir du moment où les pétroliers français n'ont plus de gasoil à vendre, qu'ils sont obligés d'en acheter à l'étranger, ils vont l'acheter hors taxe plus cher que ce qui leur coûte eux quand ils le fabriquent. Donc c'est vous, à la pompe, qui allez payer cette différence. Ce qui explique que le gasoil continue d'augmenter, alors que le super augmente un peu moins. Et le différentiel va se réduire, mais non pas à cause des taxes, mais à cause du prix supérieur en hors taxe du diesel. Voilà, c'est mathématique, c'est tout simple.
Oui, bon, alors est-ce que c'est la fin du règne du diesel
Non, parce que cette semaine, le gouvernement, avec son fameux bonus-malus, vient de nous remettre un coup de boost au diesel. Et moi, ça me fait hurler parce qu'on parle de mesures écologiques et on va privilégier des voitures qui émettent moins de 130 grammes de CO2. C'est très bien, sauf que dans ces voitures, il y a principalement des petits diesels sans filtre à particules et qui émettent beaucoup d'oxyde d'azote et beaucoup de particules. Et je suis désolé, c'est très mauvais pour la santé. Ce sont des voitures extrêmement polluantes. Donc on va
favoriser. Alors que l'essence n'émet pas ce genre de particules.
L'essence émet beaucoup moins de particules.
Émet plus de CO2,
mais émet moins d'oxyde d'azote également. Donc on va favoriser
une fois. Ouais, on dégage moins de CO2, mais on pollue plus.
Complètement.
Il aurait fallu
prendre exemple sur la Suède, qui encore une fois est un modèle pour l'Europe, qui a effectivement mis en place des mesures de bonus-malus pour les voitures, mais avec certains garde-fous, en particulier sur les émissions de polluants. Et là, on parle de polluants. Le CO2, c'est pas un polluant. C'est mauvais pour la planète parce que ça participe au réchauffement climatique, mais c'est pas un polluant. À côté de ça, il y a des véhicules qu'on va favoriser qui émettent, eux, des vrais polluants. Et on va dire, voilà, j'ai acheté une voiture propre, alors qu'en fait, elle est en train de vous saboter la santé.
On part pas du principe que si une voiture émet pas beaucoup de CO2, justement, elle va pas émettre aussi beaucoup de polluants. Il n'y a pas un ratio.
Oui, clairement, si elle est au même niveau de dépollution qu'une grosse voiture, elle va en émettre moins, c'est clair. Mais par contre, il y a des modèles. On va prendre la Toyota Prius, qui est un bon exemple, qui est un modèle essence qui émet peu de CO2, mais qui émet également très peu d'autres polluants. Elle n'est pas simplement propre au niveau du CO2, elle est propre au niveau de tous les gaz qu'elle rejette. Alors qu'un petit véhicule diesel qui n'a pas de filtre à particules et qui n'a pas de catalyseur de NOx, c'est compliqué, mais c'est des choses qu'on ne pourra pas installer sur les petits diesels. C'est impossible. Au niveau de la rentabilité, ce n'est pas possible. Donc on va favoriser l'émergence de ce type de véhicules qui sont un retour en arrière, à mon sens.
Bon, espérons que tout le monde prenne conscience que si le problème a été déporté et qu'on réagisse vite, peut-être. Enfin, on verra.